Donc, bonjour à tous et merci à chaque fois pour l'accueil. Voilà comment on fait chez Abdel la veille, chez Toby quand je viens chez Toby, pas aujourd'hui. Et pour les frères et sœurs ici, nous allons donc continuer avec la première épître de Jean, qui est une épître magnifique. Je vous rappelle que la version que je vous en propose, en tout cas celle que je vais vous lire, elle est adaptée à partir de la version araméenne de cette épître. Et nous allons aborder aujourd'hui, dans la première épître de Jean, chapitre 1, à partir du verset 5, puisqu'on avait vu le prologue la dernière fois, les quatre premiers versets, et on ira jusqu'au chapitre 2, verset 2. Parce qu'il me semble qu'on a là une unité. Au Seigneur, on te demande de bénir cette parole, que ce ne soit pas la parole de l'homme, mais que ce soit ta parole éclairée par ton esprit. Car tu n'accompagnes pas la parole de l'homme, mais tu accompagnes la parole de Dieu. Donc je vous lis ce texte. Et ceci est la bonne nouvelle que nous avons écoutée de lui. Et nous annonçons que Dieu, le Père, est lumière. Et il n'y a pas du tout de ténèbres en lui. Mais si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous sommes menteurs. Et nous ne cheminons pas dans la vérité. Donc à partir de l'araméen, la vérité, c'est ce qui a fermé notre cœur, l'esprit de vérité, c'est celui qui affermit le cœur. Donc je rajoute des petites gloses comme ça pour bien comprendre ce qui est dit. Si nous marchons dans la lumière comme lui, le Père, est dans la lumière, nous avons communion l'un avec l'autre et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous nos péchés. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons notre âme, nous nous séduisons nous-mêmes et nous nous égarons dans l'erreur. Et la vérité, l'esprit de vérité, qui affermit le cœur, n'est pas en nous. Or, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, lui le Père, et sa parole n'est pas auprès de nous. Mes fils ou mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un paraclète, un avocat, auprès du Père, Jésus le Messie, celui qui est oint et celui qui est juste. Car lui et le sacrifice nous rendant Dieu propice, favorable. Un sacrifice qui est placé en vis-à-vis de nos péchés. Et non seulement en échange et en faveur des nôtres, mais aussi en échange et en faveur de ceux du monde. Donc j'ai essayé de faire sentir dans ma lecture, il y avait un balancement. Voilà la bonne nouvelle, mais si nous disons. Si nous marchons, mais si nous disons, si nous confessons nos péchés, mais si nous disons, on voit très bien cette construction entre ce dont Dieu rend témoignage et ce que nous nous disons de nous-mêmes. Donc en introduction, je rappelle que dans les quatre premiers versets de la dernière fois, il était question d'une bonne nouvelle. Et cette fois-ci, c'était la nouvelle du Fils qui est la parole de vie. Et Jean disait, je vous annonce une bonne nouvelle, la parole de vie. Cette parole de vie qui est de toute éternité, nous dit l'évangile de Jean au tout premier verset. Et cette vie, qui fait partie de la bonne nouvelle, a été manifestée en la personne du Fils. Et là, on est presque sensuel, parce que par l'incarnation, Jean dit, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché. Donc là, on est dans ce que l'on a dit tout à l'heure, Jésus est vraiment venu au milieu de nous. Et dans le prologue encore, il avait été dit que notre communion est avec le Père et avec le Fils. Donc après nous avoir parlé du Fils, la parole de vie et la vie manifestée par le Fils, la suite, donc, est l'objet du partage d'aujourd'hui, est cette fois consacrée au Père. Mais avant de venir à cette question-là, la bonne nouvelle, c'est non seulement que la vie est dans le Fils, mais que le Père est lumière, et il va falloir comprendre ce que ça veut dire Dieu est lumière. Parce qu'on emploie parfois des formules, on marche dans la lumière, Dieu est vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais attirer votre attention sur un point dans le texte que nous avons lu et qui va être la partie centrale de ce que je vais dire. Parce que d'un côté, il est dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes séduits, la vérité n'est pas en nous, nous le faisons menteur. Mais de l'autre, il est dit, donc si j'en reste là, est-ce que ça veut dire que nous avons péché, nous péchons et nous pécherons toujours ? Parce que si on dit qu'on n'a pas péché, on est menteur. Est-ce que ça veut dire ça ? Parce que par ailleurs, il est dit, je vous écris ces choses justement afin que vous ne péchiez point. Voyez ? Mais alors, est-ce que ça veut dire que l'on peut marcher sans plus pécher ? Alors, d'un côté, si je dis, je ne pêche pas, je suis un menteur. De l'autre, Jean écrit, oui, mais je vous dis ça pour que vous ne péchiez point. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut vivre sans péché ? Oui, il y a une espèce de contradiction là. On pêche ou on ne pêche pas ? Et c'est vraiment le cœur de ce que j'aimerais partager aujourd'hui. Mais avant cela, le texte que nous avons lu aujourd'hui au verset 5 dit « La bonne nouvelle, c'est que Dieu est lumière. » Alors dans 1 Timothée 6, par exemple, on peut trouver ce verset « Que Dieu est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Il habite une lumière inaccessible » que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Et dans Apocalypse 21, la ville, la Jérusalem céleste, n'a pas besoin de soleil ni de lune pour l'éclairer. La gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Autrement dit, quand on dit l'agneau est le flambeau, imaginez une lampe creuse à l'intérieur de laquelle vous avez une ampoule. Et la lumière de l'ampoule se voit au travers de la lampe semi-transparente. L'agneau est le flambeau et le porte-lumière de la gloire de Dieu. Une gloire qui est partout, mais elle est rendue visible en la personne du Fils. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est lumière ? Dieu habite la lumière. C'est une expression, on se demande concrètement ce que ça veut dire. De la même manière, autant l'évangile de Jean que la première épître établit un fort lien entre la vie et la lumière. Jean 1, verset 4, « En la parole » cette parole qui est de toute éternité auprès du Père, et la vie est la lumière des hommes. Moi, quand je lis ça, la vie, donc la vie de Dieu, c'est la lumière de l'homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, ça veut dire quoi ? De même, dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » D'accord ? La vie, la lumière. Quelle est cette vie qui est notre lumière ? Alors, quand on pense à la vie, on pense quoi ? Quand on pense à quelque chose qui est vivant, on pense à quoi ? Comment caractériser ce qui est vivant ? Le mouvement. Évidemment, si on voit un cadavre, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, le mouvement.
La parole.
La parole, donc l'expression, la... Comment ?
La pensée.
Oui, alors soyons plus concrets. Par exemple, une plante. En quoi reconnaissez-vous que la plante est vivante ?
Elle pousse,
elle grandit, la croissance, donc le mouvement, la croissance, voilà. Et à l'inverse, évidemment, une plante sèche coupée ou un cadavre d'animal, voilà, ça ne bouge plus, ça ne grandit plus, ça ne s'exprime plus. D'accord ? Et c'est dans Actes 17, verset 28, qu'il est dit qu'en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc la vie est associée au mouvement et à l'être. Mais là encore, tout ça, c'est théorique. Enfin, pour moi, ça ne me parle pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? La vie de Dieu, c'est notre lumière. Alors voilà ce que je vous propose comme illustration pour essayer de rendre les choses un peu plus concrètes et vraiment dans le sens de ce qui nous est dit dans ce passage. Dieu est pluriel. Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, et les deux sont unis par l'Esprit de Dieu. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Père voit le Fils. Tiens, est-ce que la lumière est liée à l'altérité, le fait que je vois l'autre ? Et il est entièrement transparent à l'égard du Fils. Le Père ne cache rien au Fils de sa bonne volonté, de ses plans, de ses desseins. Et inversement, le Fils voit le Père. Donc il y a l'autre qui est présent. Et le Fils est entièrement transparent à l'égard du Père. Le Père voit tout du Fils. Le Fils voit tout du Père. Donc d'emblée, pour moi, la lumière, ça veut dire qu'il faut au moins être deux. Celui qui suit Jésus, je suis Jésus, on est deux, aura la lumière de la vie. Ça veut dire inversement que quand on est dans les ténèbres, c'est qu'on vit seul, on vit enfermé en soi-même. L'autre n'est pas présent. Et donc pour moi, quand on parle, on dit Dieu est lumière, ça renvoie au fait qu'il y a le Père, qu'il y a le Fils, que les deux sont un, en communion, chacun des deux voit l'autre et ils sont transparents l'un à l'égard de l'autre. Pour moi, c'est ça que ça évoque, la lumière. Et du coup, c'est une lumière vivante. Pourquoi ? Parce que là où il y a deux, il y a l'interaction, il y a le mouvement. Imaginez le soleil avec la planète Terre qui tourne autour. Le Père qui est sur son trône et le Fils qui gravite autour du Père pour faire sa volonté. Chacun des deux tourne autour de l'autre. C'est vivant, c'est dynamique. Ou alors, prenons un exemple de physique, l'électron autour du noyau. Et donc voilà pour moi ce que ça veut dire. Dieu est vie et sa vie va être notre lumière. Dieu est vivant parce qu'il y a cette dynamique, ils sont deux. Si vous prenez une particule toute seule dans le vide, il n'y a rien dans l'univers que une planète, vous êtes incapable de savoir si la planète bouge ou pas. Parce qu'il n'y a pas de référent pour voir par rapport à quoi ça bouge. Le mouvement donc implique qu'il y en ait au moins deux. Qui est deux objets ou deux êtres l'un autour de l'autre. Donc la lumière, le mouvement, la vie, ça, voilà, ça présuppose d'emblée la famille divine ou la communauté. Mais alors là, ça nous parle directement. Là, ça nous parle directement. Parce que quand il est dit, un passage qui me frappe toujours, au verset 7 de ce qu'on vient de lire, si nous, écoutez bien, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même le Père dans la lumière, nous avons communion l'un avec l'autre et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Hein, on peut imaginer que la vie chrétienne, c'est que je marche seul dans la lumière avec le Seigneur et je me dérouille avec lui. Et là, c'est très étonnant la manière dont Jean nous parle de la marche de la lumière, c'est une marche collective. Et donc, on ne peut être à nouveau qu'interpellé par ce que l'on a entendu tout à l'heure. Si c'est une marche collective. Vous voyez ? Et là, ça renvoie directement à quelque chose de pratique. Marcher dans la lumière avec son frère, marcher dans la lumière avec sa sœur. Parce qu'il est dit, c'est dans le « nous » de la marche et de la communion, que le sang de Jésus purifie nos péchés. C'est frappant. Alors évidemment qu'il y a également le culte personnel, la confession à Dieu, etc. Mais il y a l'autre aspect, quand il est question de lumière, il est question de la famille divine, il est question d'un collectif, et il est question de purification dans le péché, dans la communauté et pas simplement dans la vie individuelle. Parce que vous voyez le point que j'essaie de dire. Il y a la dimension personnelle de notre relation avec Dieu, mais il y a nécessairement un pendant communautaire. Et là, c'est le « nous » qui est mis en avant, qui est l'écho, évidemment, du « nous » divin, le Père et le Fils. Donc, quand il est dit « Dieu et lumière », ça veut dire que le Père et le Fils sont transparents l'un à l'égard de l'autre. Est-ce que nous sommes transparents l'un à l'égard de l'autre? C'est un point dont on a parlé hier soir avec Abdel, et qui est important. Peut-être que quelqu'un peut me lire un texte de la parole, que je retrouve la référence. Qu'est-ce que quelqu'un peut lire à haute voix? Jacques, au chapitre 5, versets 14 à 16. Je pensais n'en parler qu'à la fin, mais autant en parler là maintenant, ça ira très bien. Jacques, chapitre 5, versets 14 à 16. Vas-y, Corinne.
Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité.
On navigue souvent entre deux extrêmes. Il y a ceux qui ne disent rien à personne, et il y a ceux qui racontent tout à tous. Il y a des gens, vous les rencontrez, ils vous racontent leur vie, et après ils rencontrent une autre personne, ils racontent leur vie, ils racontent tout à tous, de manière non discriminée. Et inversement, il y a des gens qui ne disent jamais rien de leur vie intime à personne. Comment marcher dans la lumière les uns avec les autres si nous n'avons pas un vis-à-vis à l'égard duquel nous puissions être transparents? Alors évidemment, cette notion, c'est ce que l'on vient de lire dans Jacques, la notion de confession des péchés est délicate, parce qu'évidemment, c'est un redoutable instrument si on veut mettre en place un clergé et un système pyramidal. Mais là, il est parlé de confesser les péchés les uns aux autres. On n'est pas dans un système pyramidal. On est dans la transparence l'un à l'égard de l'autre. Et je pose la question, mais évidemment, je ne vous demande pas d'y répondre. Est-ce que chacun ici a au moins un vis-à-vis avec qui il puisse ou elle puisse être transparent? Vous voyez? Sinon, on vit dans sa bulle, mais il n'y a pas quelqu'un à qui on peut s'ouvrir. Et je comprends bien que nous devons marcher dans la lumière avec le Seigneur, donc le premier à qui nous ouvrons notre cœur, c'est le Seigneur, mais parfois ça fait du bien pour notre orgueil que de pouvoir également reconnaître ce que nous sommes devant un frère, devant une sœur. Et ça permet d'appréhender une chose très simple, nous sommes un peuple de rachetés. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Donc ça permet aussi, cette transparence-là, de savoir, voilà, nous sommes tous des pécheurs, graciés par le Seigneur. Nous n'avons pas à cacher, ou alors donner une image de sainteté, de je ne sais pas quoi, alors que, non, nous sommes des pécheurs à la croix, et nous sommes tous au bénéfice de cette croix. Du point de vue de notre chair et de notre péché, il n'y en a pas un qui est là pour racheter l'autre. Et donc ça peut être important, en tout cas c'est ce qui est dit dans le passage de Jacques, que de trouver et de prier pour voir si on peut avoir également un vis-à-vis comme ça. Donc moi j'ai quelques frères, un en particulier avec qui je suis très transparent. Pour moi c'est un devoir de pouvoir parler crûment, clairement de certaines choses. Mais ce qui est frappant également dans le texte qui a été lu et qui est la suite de 1 Corinthiens 11, c'est que le manque de lumière peut, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais peut se traduire par les malades, la maladie. Il est fait un lien entre l'état de santé des gens, des personnes, et le fait de ne pas vivre dans cette lumière-là. Et la maladie peut être un signe d'alerte de Dieu pour dire, mais là, voilà, c'est un avertissement. On le voit très bien dans 1 Corinthiens 11. Il est dit, si on prend du corps et du sang et on boit de la coupe indignement, en ne discernant pas, tiens, le corps, la communauté, alors Dieu peut avertir en permettant la maladie. Mais c'est ce qu'on a lu dans Jacques également, où il semble que dans le texte de Jacques, Jacques fasse un lien entre la maladie et la non-confession du péché. Donc posons-nous simplement la question. En pratique, si nous marchons dans la lumière comme lui est dans la lumière, marchons-nous dans la lumière? Marchons-nous collectivement dans la lumière? Ou est-ce que chacun marche pour soi et comme il a été dit, on se voit le dimanche matin, mais en dehors de ça, nous ne nous connaissons pas. En fait, nous ne nous connaissons pas. Nous ne savons pas et d'un seul coup, on apprend qu'un tel ou une telle est parti et on apprend, ben voilà, il y avait tel problème qui n'a jamais été résolu dans sa vie. Et en fait, on n'en a jamais su, parce qu'on n'a pas demandé, parce que la personne n'en a pas parlé. Donc, cette notion de, vous voyez, là, ça devient de suite très très concret. La lumière de la vie, c'est du collectif, et c'est de la transparence. Voilà, je ne vais pas faire plus lourd que je ne le suis déjà, mais c'est un point qui est important. J'ai connu une mission il y a 20 ans, où justement, on était dans un système pyramidal. Donc voilà, on a connu un excès. Mais le plus souvent dans les églises, on va dans l'autre excès. Chacun vit sa vie, mais en fait, on ne connaît pas le frère, on ne connaît pas la sœur. Ce qui fait qu'ensuite, quand on veut prier pour tel ou un tel, en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi prier. Puisque les objets de prière et de lutte n'ont jamais été partagés. Je sais que pour moi, c'est très difficile de prier pour des personnes que je ne connais pas. J'entends dont je ne connais pas la vie personnelle. Je ne sais pas pourquoi prier. Donc, vous voyez que là, on est vraiment dans le concret et dans le dur de ce que signifie si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous avons communion l'un avec l'autre, et du coup, on peut prendre le pain et le vin, et nous, et le sang de Jésus, nous purifie de tout péché. Il y a une dimension collective. Ce n'est pas simplement une dimension individuelle. Je vous rappelle que la seule prière que le Seigneur nous ait laissée commence par notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas mon Père qui est aux cieux. C'est notre Père qui est aux cieux. Il y a une dimension collective. Le corps du Christ, l'Église, est un corps. C'est une collectivité. On ne vit pas sa vie chrétienne seule. Et si on se sent seul, il faut absolument demander à Dieu qu'il nous mette sur notre chemin un vis-à-vis. Après, il faut du discernement. On demande à Dieu. Parce que tout le monde n'est pas non plus capable de pouvoir entendre. Voilà. En général, on ne peut entendre que si on connaît soi-même sa chair. Si on a perdu les illusions par rapport à soi-même et par rapport à notre nature de péché, alors on n'est pas surpris quand on apprend telle et telle lutte de la part d'un autre. Ce sont les propres justes, les religieux, qui ne peuvent pas entendre la confession d'un frère ou d'une sœur sans commencer à juger. Oh, j'y savais su. Oh là, moi je ne savais pas. Hein. On ne le dit pas, mais on le pense. Et en faisant ça, on est en train de s'élever. Vous voyez? Donc il faut du discernement aussi. Et comme je l'ai dit, on ne dit pas tout à n'importe qui. Mais ne rien dire à personne, c'est aussi un problème. Et donc, je rejoins maintenant le fil de mes notes, et j'ai marqué, donc c'est comme ça que l'on comprend par l'ensemble de l'épître, que la lumière, c'est l'ouverture à l'autre, la communion, et que les ténèbres, c'est l'enfermement sur soi-même. Soit parce qu'on ne veut pas s'ouvrir, soit parce que le diable plus ou moins nous a coincés, nous a trompés en nous disant « Non, ça, il ne faut pas le dire. » Voilà, nous invite à nous a piégé, voilà, c'est le terme que j'ai cherché, nous a piégé pour qu'on vive sa vie seule et qu'on porte le fardeau seul. Alors que Dieu nous a donné un corps, il nous a associés dans un corps. Et le danger de l'enfermement sur soi est très, 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 très sérieux. Dans Jean 3, versets 19 à 21, la lumière du Père étant venue dans le monde, en la personne du Fils, les hommes, c'est notre chair à tous, on va dire notre chair, si je veux rendre des choses concrètes, aime ardemment les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc les œuvres de notre chair sont mauvaises. Quiconque œuvre selon la chair et commet donc des choses haïssables hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui agit selon la vérité, tiens, à nouveau ce mot-là, donc celui qui agit selon l'esprit de vérité qui affermit notre cœur, lui, il vient à la lumière, afin que ses œuvres soient connues, parce qu'elles sont transparentes. Et elles sont faites, comme il est dit, devant Dieu. Donc les œuvres mauvaises, ce sont les œuvres égocentrées, charnelles, qui renvoient souvent à la propre justice. Et elles sont ténébreuses parce qu'on vit sa vie seule. On est enfermé, le diable nous a piégés à nous enfermer en nous-mêmes. Parce qu'on a crainte du regard de l'autre, on a crainte du jugement de l'autre. Mais souvent, la crainte du jugement de l'autre n'est jamais qu'une expression de propre justice. Parce qu'on veut garder une belle image. Alors que les œuvres bonnes, ce sont les œuvres qui sont faites devant Dieu. Et ces œuvres faites devant Dieu commencent par la prière devant Dieu, commencent par la transparence devant Dieu. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire à propos de Dieu et lumière. Le Père et le Fils et, singulier, lumière, la communion et la transparence. Ce qui permet de comprendre à nouveau ce que Jean écrit, si nous marchons, nous sommes en communion. Le sang de Jésus nous purifie. Ça renvoie à la communion et à la famille divine. Alors maintenant, j'aimerais arriver au cœur de ce message. Comme je l'ai dit, il semble qu'il y ait un paradoxe, une espèce de contradiction, pécher, ne pas pécher, dans le passage que je vous ai lu. Donc d'un côté, comme je l'ai dit, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons notre âme, nous séduisons nous-mêmes, nous nous égarons dans l'erreur, et la vérité, ou l'esprit de vérité qui a fermé le cœur, n'est pas en nous. » Ça veut dire que l'esprit de vérité n'est pas en nous, il n'est pas à l'œuvre en nous, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Nous avons encore des illusions par rapport à notre nature de péché, par rapport à notre chair qui est haïssable. Nous sommes aveugles sur ce qui nous condamne devant Dieu. Si nous, verset 10, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, sa parole n'est pas auprès de nous. Une parole éclairée par l'Esprit est comme un miroir dans lequel on contemple notre visage naturel. » C'est ce que dit Jacques dès le chapitre 1. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et là, j'ai envie de rajouter des faux raisonnements théologiques, que souvent on bâtit tout un système théologique plutôt que d'être confronté à la parole qui va nous dire non, mais regarde ton visage naturel. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et il oublie aussitôt quel il était. Donc c'est l'action conjointe entre la parole et l'esprit, loin des traditions, des théologies et des doctrines qui souvent nous rassurent faussement dans un système religieux humain et nous donnent une assurance qui ne vient pas de la parole. Parce que cette assurance-là, elle passe d'abord par la connaissance de ce que nous sommes devant Dieu. Nous sommes des pécheurs. Comment appréhender la grâce de Dieu si je n'ai pas réalisé que j'étais un pécheur devant Dieu? Donc ça, c'est le premier terme de l'alternative. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il est séduit. Mais si je n'en reste que là, Nous sommes pêcheurs, n'est-ce pas? Tant qu'on pêchera tout le temps. C'est normal, hein? On est des pêcheurs. Combien de fois on peut entendre ça? Et donc on excuse la vie de péché en disant, oui, de toute façon, on est des pêcheurs. Et de toute façon, celui qui a dit qu'il n'a pas de péché, il est égaré, il est séduit. Vous voyez? Ça, je l'ai entendu plusieurs fois, hein, cette justification. Ah ben, c'est normal de pécher, de toute façon, il a dit, celui qui ne pêche pas, il est menteur. Alors moi, je ne veux pas être menteur, donc c'est normal de vivre dans le péché. Et dans ce cas-là, si on ne voit que cet aspect-là, c'est comme vivre la nouvelle alliance, mais comme un israélite de l'ancienne. On pêche dans la semaine, on amène l'agneau le jour du Shabbat. Et on repêche dans la semaine, et on amène l'agneau le jour du Shabbat. Péché, agneau, péché, agneau. Mais on tourne en rond, là. On est comme les Israélites dans le désert. On tourne en rond et en fait, on n'arrive pas à traverser et aller dans le Canaan. On tourne en rond. Il n'y a rien qui change. Il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas de repentance. Ça, c'est si on ne voit que ce côté-là. C'est-à-dire, si nous disons que nous n'avons pas de péché, notre chair va en conclure, ah ben il est normal de pécher. Et pourtant, juste derrière, Jean nous dit, mais non, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Il est en train de dire quoi? Mais par la marche dans la lumière, avec cette bonne nouvelle que Dieu est lumière, et dans la marche dans la lumière les uns avec les autres, je vous montre le chemin pour ne plus pécher. Je vous montre le chemin du progrès, en clair, le chemin de la sanctification. La marche par l'esprit qui permet de progresser. Donc, c'est l'autre thème de l'alternative. Et là, il y a des versets, chapitre 3, verset 9, de la même épître de Jean. Moi, quand je lis ça, je me dis, mais quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et quelqu'un a lu tout à l'heure 1 Jean 5, cette fois. Qui a lu la fin de 1 Jean ? C'est Corinne, hein ? Et on a exactement le même, peut-être que tu peux le retrouver, dans 1 Jean 5, le début de ce que tu as lu. On a la même idée, quiconque est né de Dieu. Il est dit, la semence demeure et le malin ne le touche pas. Quelque chose comme ça. Désolé de te solliciter.
Non, c'est pas grave.
Voilà, juste ce verset, je crois que c'est le premier que tu as lu en fait.
Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voilà. Celui qui est né de Dieu ne se garde lui-même et le malin ne le touche pas.
Voilà. Quand on lit de tels versets, mais également par exemple Romains 6, versets 1 et 2, et j'enchaîne avec le verset 15. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Moi, quand je lis un verset comme ça, je dis, oula. Verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Et donc on voit que la grâce de Dieu, ce n'est pas ce qui entretient la vie de péché, c'est au contraire ce qui nous permet d'en sortir. La grâce de Dieu est ce qui nous permet d'en sortir. Mais si je ne vois que cet aspect-là, ne plus pécher, là aussi j'ai connu ça il y a 20 ans dans un mouvement missionnaire. Alors là, on se lance dans l'introspection. Faut pas pécher. Attention, on se surveille, on se contrôle. On se lance dans une course au perfectionnisme, au légalisme. On commence à se lancer dans nos propres efforts. Et on devient un pharisien, un propre juste, un religieux. Vous voyez ? Donc, d'un côté, Jean dit, si on dit qu'on n'a pas péché, on se séduit nous-mêmes, il y a quelque chose qui cloche. Et de l'autre, il dit, je vous dis ces choses afin que vous ne péchiez point. Voilà, on pêche ou on ne pêche pas? Alors comment est-ce qu'on sort de cette apparente contradiction? D'abord encore. Donc là, j'ai intitulé « Quelle est la troisième voie ?» La troisième voie entre les deux termes que je viens de fixer. Qui, vous le comprenez bien, si on les prend seuls, l'un ou l'autre, dans le premier, on continue à mener sa vie, on ne voit pas de changement avec la vie d'un païen. Et de l'autre, si on le prend seul, alors là, on se lance dans la course au perfectionnisme et on devient un pharisien. Donc, y a un problème. Comment esquisser la troisième voie ? Le but d'abord, de la marche de la lumière, elle a deux buts en fait. Il y a deux choses qu'elle va montrer en même temps. Un, c'est l'horreur de notre chair. Deux, la beauté de Jésus. Et en fait, on ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre. On ne peut pas voir Jésus, en particulier dans la prière, si on ne voit pas ce qui est haïssable en nous, c'est-à-dire la chair. Autrement dit, dans la vie d'un chrétien qui a véritablement rencontré Jésus, il y a une profonde dualité. Et cette dualité, c'est, je pense, ce que Paul appelle la circoncision du cœur. Il y a une coupure du cœur en deux parties. Il y a le cœur et il y a le prépuce du cœur. Il y a une coupure en deux. C'est en lui, Colossiens 2, que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, du prépuce. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Il y a une coupure, quand on a rencontré Jésus, il y a une coupure qui s'opère en nous, avec d'un côté cette chair haïssable, qui est irréformable, intransformable, dont on ne peut rien faire, c'est un boulet qu'on traîne jusqu'à la fin, mais de l'autre, il y a un esprit qui a été vivifié, qui est uni à Jésus, qui voit à Jésus. Et dans ce cadre-là, c'est Jésus que nous voyons. Et c'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 1:30 qu'il a été fait pour nous justification. Là encore, marcher dans la lumière, comme je l'ai dit, c'est marcher avec un vis-à-vis. Jésus a été fait pour nous justification. Notre vis-à-vis, le premier des vis-à-vis, devient Jésus lui-même. Il a été fait pour nous justification. Mais je ne peux avoir les yeux sur Jésus et les garder sur Jésus ma justice. Comme il a été dit dans le dernier chant qu'on a chanté, on marche dans la sanctification et on voit sa divine beauté, que si on cesse de regarder à nous-mêmes. La marche dans la lumière, c'est également accepter la lumière de Dieu pour voir notre chair, mais ensuite on la laisse là où elle est. On ne peut rien en faire. Or, combien souvent on se regarde à soi-même en disant « Ah, il y a encore ceci, et il y a encore cela ». Et on commence à faire de l'introspection et de l'auto-analyse, sans réaliser que l'introspection, elle active la chair. Je suis un spécialiste de l'introspection, donc je sais ce que c'est. Quand je me prends les pieds dans ce tapis-là, je me mets à nouveau à regarder devant pour voir, voilà, et la chair, hop, on la réactive. Ne prenez point soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. Il faut faire attention à ça. Donc la lumière implique que je regarde à Jésus qui, lui, a été fait justice pour moi. Et qu'on cesse de regarder à nous-mêmes. Mais pour ça, il faut qu'il y ait cette coupure. Il y a une partie qui me condamne, ma chair, et il y a la partie qui me rassure, celle qui voit Jésus. Mais est-ce qu'on connaît cette coupure en nous? Est-ce qu'on sait que d'un côté, il y a notre chair qui nous condamne, mais que de l'autre, il y a l'Esprit qui nous unit à Jésus, qui nous justifie et qui nous sauve. Ou est-ce qu'on est constamment pris dans ce dilemme entre les deux? Donc, comme je l'ai dit, le chrétien qui a rencontré Jésus, cette marche amène à une dualité profonde qui est la circoncision du cœur. Le problème, c'est que plutôt que de laisser le Seigneur opérer cette coupure en nous, c'est plutôt nous qui avons tendance à couper Jésus en deux. Ça, c'est une expression de Calvin. Moi qui me parle beaucoup. Calvin dit, il ne faut surtout pas couper Jésus en deux. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? On a tendance à séparer la justice et la sainteté. Et on va dire, ah, la justification, c'est une déclaration légale qui nous tombe dessus et qui n'a aucun impact dans notre vie. C'est juste une déclaration. Dieu, je te déclare juste. C'est là, Vous voyez? Et la sanctification, quand on voit la justification comme une déclaration légale, alors la sanctification, bah, c'est presque optionnel, puisque de toute façon, je suis sauvé, Dieu m'a déclaré juste. Et la sanctification devient optionnelle. Ou alors, au lieu de l'associer à Jésus, on l'associe à l'Esprit. Et c'est comme ça qu'on va dans les secondes expériences, baptême de l'Esprit. On cherche quelque chose en plus de la déclaration légale qu'on est censé avoir eue au moment de l'appel. On coupe Jésus en deux. Pourquoi on le coupe en deux? Parce qu'il n'est pas dit que la justification, c'est d'abord une déclaration légale. Il est dit, Jésus est ma justification. C'est Jésus ma sanctification. C'est Jésus ma sanctification. Donc si on garde les regards sur Jésus, il nous justifie, il nous sanctifie dans la marche, mais notre regard n'est pas de savoir si j'ai reçu le bon diplôme et le bon billet de train qui me permet d'aller au ciel. Parce qu'une déclaration, si on réduit la justice à une déclaration légale, ça revient à ça. J'ai reçu mon billet, je le mets dans la poche, c'est bon, maintenant, le salut est assuré. Mais on a perdu le regard sur Jésus. C'est Jésus qui a été fait pour nous justice. Et je ne peux voir Jésus comme ma justice que si j'ai vu ma chair comme injustice. C'est Jésus qui est ma sanctification. C'est-à-dire que la marche par l'Esprit, à nouveau, c'est pas une marche seule. C'est la marche avec Jésus et avec les frères et sœurs. La sanctification n'est pas possible seule. C'est une démarche collective. Et donc, marcher avec Jésus, c'est, a pour conséquence, la sanctification. Donc, comprenez ce que je veux dire. On a tendance à découper les choses et à faire de la théologie avec ce qu'on appelle l'ordre du salut. Alors, il y a d'abord ça, puis tu dois passer par telle étape, et telle étape, telle étape. Et quand on commence à raisonner comme ça, on se demande toujours où est-ce qu'on en est. Est-ce que j'ai connu ça? Est-ce que je suis passé par là? Vous voyez? Mais on oublie que c'est Jésus qui nous prend par la main et qui initie la foi et va mener notre foi, notre confiance en lui, à la maturité, à la perfection. Donc c'est Jésus notre justification. C'est Jésus notre sanctification. Et donc plutôt que de regarder en nous constamment où est-ce que j'en suis de l'œuvre de Dieu, est-ce que nos regards sont portés sur lui? Sinon, comme je l'ai dit, quand on regarde à nous, on découpe Jésus en morceaux et on essaie toujours de savoir où est-ce qu'on en est. Non, notre regard doit être sur Jésus. Il est justice, il est sainteté. Et donc la seule manière de marcher dans la lumière, de la marche par l'Esprit donc, c'est une relation vivante avec Jésus. Et on cesse de s'observer et de déterrer constamment la graine pour savoir si elle a commencé à germer, où en sont les tiges, les branches, les feuilles et tout ce qu'on veut. On regarde à lui. De toute façon, c'est lui notre sauveur. C'est lui notre justice, c'est lui notre sainteté. Galates 5, verset 16, marchez selon l'Esprit, en regardant à Jésus, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas là la troisième voie dont je parlais? Entre d'un côté, je pêche toujours, et de l'autre côté, je fais tous les efforts pour ne plus pécher. Est-ce que la troisième voie, par la parole, ce n'est pas regarder à Jésus, donc il faut bien une question de lumière, comme je l'ai dit, pour le voir. Regarder à Jésus, parce qu'on l'a rencontré, parce qu'il nous aime, parce qu'il s'est livré comme personne ne s'est livré pour nous. Et marcher selon cet esprit-là, et être tellement captivé par lui, qu'on en arrive à ne plus accomplir les désirs de la chair, parce qu'on trouve en lui quelque chose de bien meilleur. Et là, on a la clé de la sanctification, et on a la clé, je pense, de ce que Jean dit quand il dit « Le chemin de lumière dont je viens de vous parler, parce que Dieu est lumière et nous marchons dans la lumière, c'est le chemin de la sanctification. C'est le chemin du progrès dans notre vie chrétienne. Ça devient dynamique, ça devient vivant avec Dieu et avec les frères et les sœurs. Donc, je pense que c'est ça la troisième voie. C'est la marche par l'esprit centrée sur Jésus, en cessant de chercher quoi que ce soit de bon en nous. En moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'y a rien de bon. Galates 2. Et dans ce cadre-là, Jean écrit, mais rassurez-vous, évidemment, si quelqu'un a péché, s'il y a une chute, nous avons un avocat auprès du Père. Mais voyez que ça devient l'exception et non plus la règle. C'est un garde-fou, une roue de secours. Je vous donne le chemin pour ne plus pécher, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de chute. Et dans ce cas, nous avons un sacrifice devant le Père, sacrifice de celui qui nous est favorable et qui nous rend Dieu favorable. Donc on n'est pas dans le perfectionnisme, du légalisme, mais on n'est pas également dans le laxiste où péché, c'est pas grave. Vous voyez ? Donc la troisième voie, c'est cette voie de lumière, cette marche de lumière, mais elle implique, comme je l'ai dit au départ, une marche également en communauté. Hein, ce n'est pas simplement une marche seule. Il y a la part de prière face au Père dans le lieu secret, mais il y a également, avec Jacques 5 et ce qui nous est dit ici, il y a le « nous » qui est également important. Une église, ce n'est pas une somme d'individus. Donc voilà, c'était l'esquisse de cette troisième voie qui n'est possible que si Jésus est premier dans notre vie et qui nous décentre de nous-mêmes et donc nous rend sensibles non seulement à Dieu mais également aux autres. Et je pense que c'est le sens profond de cette lumière dont il est question, de cette transparence les uns avec les autres, également le fait qu'il y ait un autre. Si je suis aveugle, je suis dans une pièce, imaginez, on ferme les volets, on éteint la lumière, je serais incapable de savoir s'il y a quelqu'un dans la pièce. Dans la lumière, on ne voit que soi, on ne voit pas les autres. Dans les ténèbres, pardon. Voilà. Dans les ténèbres, on ne voit que soi, on ne voit pas les autres. Hein? Donc la marche dans la lumière, c'est une marche collective. Donc, pour conclure, je vois que l'heure avance. Donc, le premier point de ma conclusion, ben, en fait, je l'ai glissé au départ, c'est que quand on lit « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière », on a l'impression que la purification des péchés, elle est presque implicite et une conséquence naturelle dès lors que nous marchons dans la transparence les uns avec les autres. C'est assez étonnant. Il faut se poser, est-ce que mes péchés ont été purifiés ? Est-ce que marchons dans la lumière les uns avec les autres ? Et on a l'impression que tout naturellement, le sang de Jésus nous purifie. L'autre réflexion que j'ai également, du coup, comme je vous ai dit, Jean nous dit, je vous montre le chemin de la sanctification pour ne plus pécher, pour progresser dans la vie. Moi, ça m'a vraiment posé la question de savoir si Jean, comme je l'avais dit, je crois, la dernière fois, ne parle pas d'abord à des jeunes convertis. Puisque vous vous souvenez qu'un petit peu plus tard, on le rencontrera, il est question des enfants, des jeunes gens et des pères. Vous vous souvenez de ce passage ? Hein, je vous écris « enfants » parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris « jeunes gens » parce que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Et je vous écris « pères » là, il faut qu'on m'aide. Je vous écris « pères » Sinon, je reprends ma Bible. C'est au chapitre 2, fin du chapitre 2, début du chapitre. En tout cas, vous voyez le passage dont je parle. Hein, quand il est dit, je vous écris jeunes gens, je vous écris enfants, je vous écris pères. Je crois qu'il est dit, je vous écris enfants parce que vos péchés sont pardonnés en son nom, je vous écris jeunes gens parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et vous avez vaincu le malin, je vous écris père parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, on voit que la première épître de Jean, c'est comme une catéchèse. C'est un catéchisme pour les jeunes convertis, pour leur montrer la voie du progrès et la voie de la sanctification. Et donc, quand je lis le début de l'épître de Jean, j'ai l'impression, effectivement, que Dieu s'adresse aux enfants. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit au chapitre 2, verset 1. « Mes petits-enfants, mes enfants. » Vous voyez ? Donc, on peut le lire aussi comme ça. La marche dans la lumière, autrement dit la repentance, c'est quelque chose qui devrait vraiment occuper le début d'une vie chrétienne. Et souvent, comme je l'ai dit, on tourne en rond dans le désert plus tard dans notre vie, parce qu'on n'a jamais connu ce passage-là de mise en lumière, de marche de la lumière, d'apprentissage, de la transparence les uns avec les autres, ou au moins avec un vis-à-vis. Et du coup, n'étant pas ouvert, n'ayant pas appris à s'ouvrir non seulement à Dieu, mais avec au moins un vis-à-vis, ben on tourne en rond, il y a des choses dont on n'arrive pas à sortir. Et donc j'ai vraiment l'impression que cette première épître de Jean, elle est d'abord adressée à des jeunes convertis qui leur montrent le chemin pour progresser par la marche de la lumière, pour l'efficacité du sang de l'agneau, pour le pardon et la purification. Et la conclusion de ça, évidemment, c'est que seul Jésus est juste et saint, et que la marche chrétienne consiste à regarder à lui. Donc là, il y a un point qui est important. D'abord, qui connaît ses égarements pardonne ce que j'ignore. Ça veut dire qu'il y a des choses, il peut y avoir des péchés dans notre vie dont le Seigneur ne nous a pas encore rendu conscients. Donc les choses qu'on ignore, ben on ne fouille pas, on laisse le Seigneur nous les montrer par des circonstances, par qui vont hop, révéler des choses dans notre vie. Mais ça veut dire également, vous rappelez que plusieurs fois dans la parole, nous sommes appelés à avoir une bonne conscience devant Dieu. Donc la conscience claire est un bon signe que l'on marche avec Dieu. Parce que comme le dit Paul à Timothée, ceux qui ont perdu cette conscience-là s'égarent dans la foi. Donc la conscience est un bon compas. Mais Paul dira par ailleurs dans 1 Corinthiens, c'est pas pour autant que je suis justifié. Parce que sinon on se transforme en « Ah, j'ai une bonne conscience ». Les pharisiens avaient une très bonne conscience aussi. Hein. Et pourtant ils n'étaient pas justifiés. Donc la conscience est un bon guide dans cette marche de la lumière. Mais c'est pas pour autant qu'on est justifié. Parce que n'oubliez pas, nous avons un bousin que l'on traîne avec nous, qui s'appelle la chair. Et en tant que telle, elle nous condamne. Donc, c'est l'union avec Jésus et cette marche avec Jésus dans la lumière et les uns avec les autres qui permet donc cette marche de sanctification, qui permet cette purification des péchés, qui est à la base même de la justice, et qui s'accompagne d'une bonne conscience, même si ce n'est pas notre bonne conscience qui nous justifie. Sinon, on est encore en train de nous regarder à nous-mêmes. Cette fois, on regarde la bonne conscience. Vous voyez ? Voilà, je crois avoir dit l'essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui à partir du texte que l'on a lu ce matin. Donc, arriver à trouver cette troisième voie qui est centrée sur Jésus et qui implique la communauté pour la marche de la lumière et l'efficacité de la purification par le sang de l'agneau. Nous avons trop souvent, et en particulier en Occident, une conception individualiste de notre vie, et en particulier de notre vie chrétienne, là où il y a une dimension communautaire qui apparaît à plusieurs endroits de l'Écriture, et des difficultés que l'on peut vivre en communauté, et on a pris l'exemple de Jacques 5 avec un nombre anormal de malades. Il faut se poser la question s'il n'y a pas un lien avec la question de la lumière, la question de la transparence les uns aux autres. Vous savez, souvent, alors là, maintenant, je parle dans le monde, d'un point de vue médical. La vie seule, la solitude, engendre des problèmes de santé par le simple fait d'être seul. Alors que le vis-à-vis, ça nous décentre de nous-mêmes, voilà, il y a une marche. C'est vrai, par exemple, alors moi je le dis en tant que célibataire, l'espérance de vie des célibataires est moindre que celle des gens mariés. C'est tout bête. Vous voyez ? Ça montre à quel point, même sur le plan naturel et humain, l'importance du groupe, de la communauté, est importante. Donc il y a certaines civilisations, ou certaines, je pense en Afrique, en Asie, ou en Amérique du Sud, où le collectif est encore très important, alors parfois peut-être un peu trop important, Mais le groupe est important. Et inversement, en Occident, on a tendance plutôt à nous isoler. Voilà. Et l'évangile devrait être le remède à ça. L'évangile devrait permettre de pouvoir recréer ce lien collectif pour ne pas avoir à vivre sa vie de chrétien, sa vie de foi, seul. Voilà, je termine avec cette parole.